Bonjour Patrick Carabe.
Bonjour.
Et avant d'aborder cette question du séparatisme et de votre livre, le livre noir du sport, c'est au vice-président de la région Île-de-France que je voudrais m'adresser, puisque Paris et les villes de banlieue limitrophes risquent bien de passer en zone de vigilance maximum dès lundi prochain. Les indicateurs de l'épidémie de coronavirus sont mauvais, a expliqué hier le ministre de la Santé, et cela signifierait notamment la fermeture totale des bars dès lundi soir. Est-ce que cette issue aujourd'hui vous paraît inéluctable?
Alors trois remarques. D'abord, ouais. Il faut faire en sorte que les indicateurs soient fixes. Et on voit bien qu'il y a un différentiel d'interprétation entre Paris et Marseille, et ça suscite la colère.
Qui énerve beaucoup Marseille d'ailleurs.
Bien sûr. Et puis ils vont imaginer que c'est parce qu'ils ont Raoult et qu'on se venge de Raoult. Non. Bon, tout ça n'est pas sérieux. D'autres disent c'est parce que le président de la République s'exprime aujourd'hui qu'il ne fallait pas faire de vagues. Il faut que ces indicateurs soient de manière très claire, précise et entraîne les mêmes conséquences partout pour éviter ce sentiment d'injustice et pour faire en sorte que les gens acceptent la mesure, parce que s'ils ne l'acceptent pas, ça ne passe pas. Deuxième élément, il faut une meilleure concertation. Alors oui, c'est vrai, cette fois-ci, cette concertation a eu lieu et c'est aussi un peu la marque de fabrique de Castex, le Premier ministre, qui a, avec son ministre de la Santé, qui a aujourd'hui tenu compte de ce que pouvaient dire les élus locaux. Troisième élément, il faut accompagner les mesures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que un tiers de nos restaurateurs et de nos bars vont déposer le bilan. Un tiers, avec des drames humains, peut-être même des suicides.
Ils le disent, qu'ils sont dans une situation catastrophique.
Ils sont dans une situation absolument abominable. Il faut donc accompagner ces mesures. Valérie Pécresse, la présidente de région, les a reçues à la région et demande aujourd'hui à l'État de baisser le seuil pour accompagner ces restaurateurs et ces bars. Il faut le descendre à 50% de pertes et pas laisser à 80% de pertes. Et il faut donc mettre en place des mesures d'accompagnement et puis prévoir des clauses de revoyure. Alors oui, ça semble effectivement inéluctable parce qu'on est sur une dynamique qui n'est pas bonne, pas bonne en Île-de-France, qui n'est pas bonne à Paris. Eh bien, attendons la prochaine décision du ministre.
Mais il faut l'accompagner, on vous a entendu. Alors venons-en donc à ce qui sera sans doute l'actualité forte de la journée. Le président de la République va prononcer au Mureau, dans les Yvelines, en région parisienne, un discours attendu depuis très longtemps sur le séparatisme ou les séparatismes, puisque c'est plutôt comme ça que préfère dire le président de la République. D'abord sur ce terme, est-ce qu'il vous paraît pertinent pour nommer les choses?
Alors, il parle de séparatisme, on pourrait aussi parler de communautarisme. En fait, ce qu'il vise, ou de radicalisation, ce qu'il vise aujourd'hui, c'est les islamistes et ce que font les islamistes dans nos services publics.
Mais quand le président de la République dit les séparatismes, vous en connaissez d'autres?
Oui,
aujourd'hui actif en France.
On pourrait dire que du point de vue territorial, vous avez quelques mouvances indépendantistes, ça ou là. Le vrai sujet, c'est pour le président de faire en sorte de ne pas stigmatiser une religion. Mais qu'est-ce qu'il vise réellement? Il vise l'islamisme politique et à ne pas confondre avec l'islam ou les musulmans. Il faut être aujourd'hui très clair. Tous ceux qui tiennent des propos, tous ceux qui agissent, tous ceux qui mettent la foi au-dessus de la loi, ceux-là doivent être combattus. Et dans le livre noir que j'ai co-écrit avec Magali Lacrosse, on se rend bien compte que l'État se lie les mains. Je vous donne un exemple très simple.
Alors ce livre concerne le milieu du sport en particulier, et il n'évoque pas d'ailleurs que la question de la radicalisation. Il évoque également l'homophobie, les violences sexuelles, etc. Mais enfin, aujourd'hui, c'est le sujet qui nous intéresse.
Oui, mais sur la radicalisation, il faut quand même dire un mot sur quelques contestations que l'on fait. Aujourd'hui, quelqu'un qui est radicalisé, on ne peut pas lui interdire d'aller dans un club. On ne peut pas lui interdire d'aller dans des colonies de vacances. On ne peut pas l'exclure des services publics. On ne peut pas l'exclure par... Il peut être conducteur de train ou de bus. Ça veut dire avoir entre les mains la vie des gens. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut prévoir un fichier des radicalisés. Nous avons par exemple pour tous ceux qui sont en contact avec les enfants dans le champ sport et le champ jeunesse, nous avons un fichier FIJES, c'est des interdits pour violences sexuelles. Pourquoi ne l'avons-nous pas pour les radicaliser? Vous êtes radicalisé, vous n'avez rien à faire dans nos clubs. Et il faut donc que le gouvernement, c'est vrai que juridiquement c'est compliqué, mais ça n'est pas impossible. Il faut que le gouvernement le prévoie.
Comment se manifeste cette radicalisation dans le monde du sport et par quoi se traduit-elle?
Vous pouvez avoir des phénomènes qui vont des atteintes aux valeurs de la République jusqu'à la rupture. Par exemple, vous avez des phénomènes de prière sur le terrain. Vous avez des phénomènes où vous ne voulez pas vous baigner.
On refuse l'inscription de certaines femmes, enfin, de femmes,
mais
par exemple.
Pas de mixité. Ouais. Et puis, quand on vous impose la mixité, vous faites en sorte que les hommes et les femmes ne se croisent jamais. Ouais. Pour noyer le poisson aujourd'hui, les clubs radicalisés sont beaucoup plus subtils. Vous avez des individus qui peuvent être des recruteurs, c'est-à-dire des éducateurs en contact avec les enfants et qui peuvent radicaliser. Ces phénomènes, il faut qu'on se le dise, ces phénomènes sont tout à fait marginaux parce que nous avons un certain nombre de nous avons une immense majorité
ils sont
de
marginaux clubs. Mais est-ce qu'ils sont en expansion?
Ils sont marginaux mais ils progressent, et le problème c'est que nous n'avons pas d'outils pour mesurer ça, et surtout nous n'avons pas d'outils pour les fermer. Vous savez que nos services de renseignement intérieur considèrent que 12,5% des personnes qui sont inscrites sur le fichier de signalement pour radicalisation islamiste, 12,5% sont aujourd'hui dans des clubs. Est-ce que vous savez que tous ceux qui ont commis des attentats sont aussi passés dans des clubs? On aurait pu les repérer à ce moment-là. Et pour nos services de renseignement, le sport est le premier vecteur de la radicalisation.
Donc c'est un bon baromètre, le monde du sport, de la montée de l'islamisme dans le
pays. Disons que c'est un réceptacle. Ouais. C'est un réceptacle. Le sport apporte des valeurs. Le sport, effectivement, fait en sorte de donner des valeurs, et avec les éducateurs, de mettre sur le droit chemin des gamins. Mais quand ces dérives s'expriment dans le sport, il faut être capable de les identifier et de les exclure. Et nous n'avons pas d'outils. Pourquoi aujourd'hui on arrive, quand on veut fermer des clubs de personnes où il y a des gens radicalisés, que fait-on? Bon, on fait des contrôles, mais on fait des contrôles sur quoi?
Sur d'autres sujets.
Sur d'autres sujets. Ouais. On va regarder si la
sanitaire,
salubrité,
sécurité, etc.
Absolument.
Mais Patrick Karam,
ça veut dire qu'on n'a pas d'outils. Ouais. Il faut que l'État nous réarme.
Mais précisément, que peut-on faire sur le fond d'un sujet comme celui-là? Puisque on peut s'attaquer, fermer une salle, c'est s'attaquer aux effets. Mais sur la cause, la montée de l'islam radical, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on ne peut pas, certains disent qu'il faudrait interdire le salafisme, décréter le salafisme illégal, mais c'est absurde d'une certaine manière.
Alors,
on ne peut pas interdire des courants de pensée.
Alors, pardon, ce n'est pas simplement un courant de pensée, c'est un courant de pensée qui a des implications dans la vie concrète.
Oui, bien sûr, mais vous ne pourrez jamais empêcher quelqu'un d'être intimement salafiste.
Eh bien, s'il est salafiste, ça veut dire qu'il ne serre pas la main des femmes, donc il contrevient à nos valeurs. Ouais. Et s'il est salafiste, c'est qu'il considère que les chrétiens sont des djimmis, ou les juifs sont des djimmis, ou sont des koufars, et donc là encore, il contrevient à nos valeurs. Ouais. Eh bien, il faut les combattre, et il faut effectivement, c'est ma conviction profonde, il faut faire en sorte de les exclure de tout service public. On ne peut pas les retrouver en contact avec les enfants, on ne peut pas les retrouver comme fonctionnaires, il faut les mettre à part de la société. Ils se sont exclus. Et quand ils sont étrangers, il faut les exclure, il faut les expulser. Pardon, mais c'est quoi cette faiblesse vis-à-vis des étrangers radicalisés? Quand vous avez des imams radicalisés qui continuent à aller dans les mosquées et qui continuent à tenir des discours odieux, mais odieux, et qu'on laisse faire, qu'est-ce que c'est ce système qui n'arrive pas à les exclure? Et je vais vous dire pourquoi on n'arrive pas.
Très rapidement.
Parce que nos démocraties produisent des normes qui protègent. Et ces normes protègent qui? La liberté de penser, au détriment, effectivement, de ceux qui veulent protéger la société. Donc il faut inverser la présomption.
Merci Patrick Karam. Bonne journée.
Merci à vous.